This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. L'OSINT est partout, dans les conflits, la lutte contre les fake news, la guerre économique. OSINT, O-S-I-N-T, signifie Open Source Intelligence, autrement dit, renseignement basé sur des sources ouvertes. Et c'est une discipline qui explose. Elle a ses formations, ses spécialités et ses praticiens reconnus. L'un d'eux est avec nous aujourd'hui dans Contrôle F. Alexis Pinon dirige la cellule OSINT chez Forward, un grand cabinet d'intelligence économique. Il est passé par l'école de guerre économique, tout un programme, et il dirige aujourd'hui une cellule composée de techniciens et d'analystes. Depuis quelques années, les demandes des entreprises explosent. Elles veulent comprendre leur concurrence, leur environnement et anticiper les actions de leurs opposants, comme par exemple certaines mouvances écologistes ou divers groupes armés qui peuvent, dans certains cas, menacer une activité à l'étranger. Parfois, il faudra donc surveiller, voire infiltrer, les boucles Telegram ou WhatsApp qui servent de réseau d'échange et aussi de propagande. Mais c'est surtout la lutte anti-fraude, la contrefaçon, le vol de propriété intellectuelle qui concentre l'activité d'Alexis Pinon et de son équipe. Dans ces cas-là, ce sont les cabinets d'avocats des grands groupes qui le contactent pour lancer des enquêtes aux ramifications internationales qui peuvent durer plusieurs mois. En route donc pour une plongée dans le monde passionnant du renseignement ouvert qui, dans la guerre économique, est devenue une des armes les plus efficaces. C'est parti. Bonjour Alexis Pinon.
Bonjour Frédéric.
Explique-nous ce que tu fais chez Forward exactement.
Eh ben, chez Forward Global, je pilote le département investigation digitale, donc tout ce qui est OSINT notamment.
Forward est une firme d'intelligence économique ?
Exactement, c'est un gros cabinet d'intelligence économique. On a différentes filiales avec différentes expertises.
Aujourd'hui, quelle est la formation d'une personne qui va faire de l'OSINT ?
Je dirais qu'il n'y a pas de formation certifiante qui va faire que demain, tu vas être un pro de l'OSINT. Moi, je le vois dans ma cellule où j'ai des profils qui sont divers et variés. J'en ai une qui a fait, comme moi, l'école de guerre économique, alors qu'un autre qui sort d'une filiale plus universitaire, plus géopolitique. Aujourd'hui, je dirais que l'OSINT passe surtout en fait, par une volonté de s'auto-former, par une curiosité et par une certaine rigueur. Donc, il n'y a pas forcément de formation qui vont te dire bon, « bah, demain, tu vas être un enquêteur chevronné ». D'abord, il va falloir que tu aies des bases, plusieurs formations peuvent t'en donner, mais aussi une appétence pour le sujet, une volonté de recherche, une volonté d'analyse. C'est surtout ça.
Quel est le niveau des formations en France par rapport aux autres pays européens ou aux États-Unis ?
Je dirais qu'en fait, tu vas avoir différents profils en OSINT. Tu vas avoir des profils qui vont être très techniques, qui vont être capables de te chercher sur un site web, par exemple, d'exploiter pas des vulnérabilités, mais pas mal de petits tips et tricks qui sont assez techniques.
Genre quoi ?
Bah, par exemple, accéder au sitemap d'un site.
Le sitemap, c'est donc la structure d'un site qui permet de voir ce qu'il y a, comment il est fichu.
Quand tu veux chercher un peu une page plus ou moins cachée, ou ce site-là, il n'a pas envie que les moteurs de recherche scrapent cette page-là. Pourquoi ? Tu peux aller voir.
D'accord. Donc, tu vois, ça va être donc là, vous allez avoir une capacité, pour traduire un peu pour les gens qui nous écoutent, vous allez rechercher à savoir s'il y a des éléments cachés, pas complètement dissimulés, mais cachés au grand public sur certains sites.
C'est ça. Typiquement, si je te prends un exemple concret, quand tu as des sites web frauduleux qui sont mis en place pour te vendre des crypto-monnaies ou des investissements en bourse. En général, tu peux en avoir plusieurs qui vont être mis en ligne, mais pas forcément liés, en fait, de prime abord. Par contre, quand tu commences à regarder les sitemaps, tu vois qu'ils sont foutus pareil. Quand tu commences à regarder les robots TXT, tu vois que c'est à chaque fois les mêmes pages qui veulent pas que tu regardes, mais pourtant, elles sont quand même là. Les à propos, tu retrouves des bribes de phrases qui sont, en fait, des copier-coller. Et en fait, c'est relativement technique. Et c'est en faisant ce type de lien que tu vas pouvoir découvrir l'écosystème. Et si tu pousses le côté technique pour en revenir aux formations dont tu parlais, tu vas avoir des profils qui sont capables de coder, en fait, de te déployer des scripts Python, de les écrire de A à Z.
Python, c'est le langage de codage le plus utilisé pour ce que vous faites.
Exactement. Après, tu as aussi d'autres langages comme Go aussi, qui est pas mal utilisé aujourd'hui. Mais effectivement, et donc tu vas avoir des profils qui maîtrisent vachement bien ce type de regard, ce type de compétences techniques. À côté de ça, en parallèle, tu vas avoir des gens qui, d'un point de vue analyse géopolitique, sont extrêmement bons. Et donc, en fait, ils n'ont pas forcément de compétences techniques, mais quand il s'agit, par exemple, de faire une enquête sur qui est le diffuseur d'une désinformation qui murmure un coup d'État dans tel pays africain, eux vont avoir, en fait, un avantage, entre guillemets, parce qu'ils vont connaître la situation sur place, ils peuvent connaître très bien, avoir un peu de culture sur le passé oui. du pays en question, et donc avoir un autre regard qu'une personne très technique qui est capable de...
Mais qui n'aura pas la vision géopolitique.
C'est ça.
D'accord.
C'est pour ça qu'en usine, aujourd'hui, tu peux trouver des profils extrêmement différents.
Tu as fait ce qu'on appelle l'école de guerre économique.
Oui.
Quel est le statut de, cet enseignement? Quand on dit école de guerre économique, il y a une connotation évidente, très militaire. Est-ce que vous êtes connecté à l'école de guerre militaire?
Alors, pas directement. Après, il y a une certaine proximité, parce que de toute façon, l'école de guerre économique a toujours été ouverte. Il y a toujours, moi, quand je l'ai fait, en tout cas, il y avait des profils militaires qui étaient là. Moi, j'étais la P19. À cette époque-là, il y avait moins de formations qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'école dispense des formations plus techniques, notamment en cybersécurité, etc. Moi, c'est un bac plus 5 que j'ai fait là-bas, donc un master spécialisé en intelligence économique, SIE, comme il s'appelait à l'époque, et qui dispense en fait tout un tas de modules autour de l'intelligence économique, de manière très concrète, avec beaucoup de travaux concrets en fait, à faire, notamment en équipe.
Les jeunes gens qui sortent de l'EGE se retrouvent où? Si on faisait un camembert avec quelques grandes masses?
Ah, là, j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts en fonction de la réponse que je vais te donner, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont finir effectivement dans tout ce qui est cabinet de conseil, analyse géopolitique, intelligence économique, tout ça. Il y en a qui vont finir dans des départements d'intelligence économique, par exemple dans des grandes boîtes type Airbus, Thales, etc.
Ouais. D'accord. Vous êtes un petit peu plus restreint, c'est-à-dire que vous travaillez pour des clients essentiellement privés. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Que faites-vous pour eux? Alors évidemment, on va flirter avec les limites de la confidentialité des affaires. Néanmoins, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets, suffisamment précis quand même, pour qu'on ait une idée exacte du type de service que vous fournissez?
Complètement. Donc là, je vais partir pour la cellule OSINT que je pilote. Donc nous, en fait, on va avoir tout ce qui est investigation digitale, pardon, et tout ce qui est monitoring un peu précis. Pour tout ce qui est investigation digitale, tu peux avoir des cabinets d'avocats qui viennent te voir, il y a un conflit ou il y a quelque chose, et ils ont besoin, en fait, d'une investigation open source pour collecter de l'information, pour appuyer, en fait, leur cas. Typiquement, on a un sujet antifraude où, en fait, il y avait plusieurs victimes qui avaient été volées de plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, le cabinet d'avocats, pour essayer de faire avancer les choses un peu plus rapidement, nous mandate pour enquêter, en fait, sur toute cette fraude, pour montrer qu'il y a eu bien, en fait, volonté de nuire et d'arnaquer et d'essayer de s'approcher au plus près des coupables. Et c'est là où on en revient au site Internet dont je te parlais tout à l'heure. On mène une analyse technique... une analyse open source, on collecte un maximum d'informations pour essayer de remonter en fait aux instigateurs de cette arnaque-là. En parallèle, tu peux avoir des groupes donc, qui sont implantés au niveau international avec des infrastructures dans différents pays qui peuvent être plus ou moins sensibles. Et là, on peut faire appel à nos services pour effectuer un monitoring, encore une fois open source, afin de déterminer quelle est l'ambiance, entre guillemets. Tu vois, typiquement, tu as une société, un grand groupe français qui a une usine implantée en Afrique. Ça, il y a un mouvement armé qui sévit aux abords plus ou moins de cette usine.
Et on n'en manque pas là, apparemment, c'est quand même assez répandu.
C'est ça, on n'en manque pas. Et donc, en fait, ils ont des renseignements sur place qui peuvent provenir des autorités locales, etc. Mais nous, on est mandaté parce qu'on est capable de leur amener une certaine valeur ajoutée dans la collecte qu'on fait, parce qu'en fait, on va se baser sur notamment la population sur place qui va publier sur Instagram, qui va publier sur Twitter, sur Snapchat, etc. Et en collectant ces données-là, on arrive à voir à peu près ce qui se passe sur le terrain. Et on est capable de suivre ou pas, typiquement quand il y a un village qui est attaqué, on est capable de suivre, grâce à la population locale qui va en parler, qui va publier sur ses réseaux, si oui ou non, combien étaient les assaillants, quand est-ce que ça s'est passé exactement, quel était le chemin, etc. Et tout ça, en fait, permet d'apporter un peu plus d'intelligence à notre client, puisque lui, les autorités locales ne vont pas forcément lui donner tous ces détails-là, mais lui, il le sait du coup grâce à ça.
Dans quelle mesure vous allez faire des analyses techniques à caractère sémantique? Par exemple, quand vous avez un flot de milliers de tweets ou de milliers d'échanges sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez, par exemple, les passer au tamis d'un système d'analyse sémantique?
Alors, effectivement, tu as plusieurs possibilités quand tu collectes, notamment dans tout ce qui est opération des informations qui sévit principalement sur Twitter, où là, tu fais face à, comme tu le dis, des centaines de milliers de tweets où il faut t'identifie des patterns. Et à mon avis, on en reviendra tout à l'heure, je crois, mais c'est là où l'IA peut avoir une certaine valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, les solutions qu'on a, ça va être ça, ça va être de détecter quels sont les mots les plus utilisés et de donner des stats, en fait, sur ces mots-là. Et tu peux avoir aussi des stats sur les comptes qui ont diffusé cette information-là. Est-ce qu'ils ont tous pas de photos? Est-ce qu'ils ont tous pas de bio? Est-ce qu'ils ont tous été créés dans le mois précédent l'opération des informations en question? Donc là, effectivement, tu fais une analyse à ce niveau-là, en fait. Donc c'est comme ça que tu peux commencer à suspecter, quantitativement parlant, une opération des informations.
Est-ce que vous infiltrez des groupes, genre par exemple les boucles Telegram, les boucles WhatsApp?
Alors, il n'y a pas d'infiltration comme on l'entend, ou d'espionnage ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on l'a vu avec la rumeur de coup d'État qui a sévi au Congo, tout était parti de chaînes Telegram russes. Ces chaînes Telegram sont ouvertes, en fait. Il suffit juste, toi...
Quand je dis infiltration, c'était plus effectivement le fait de rejoindre des groupes qui sont actifs sur des plateformes type Telegram, etc.
Complètement. Ouais. Telegram a pris une importance... a pris une très grande importance aujourd'hui. Et effectivement, tu as des chaînes en russe, dans toutes les langues, en arabe, en chinois, etc. Et effectivement, monitorer ces chaînes-là, on le voit, je reviens dessus sur le coup d'État, la rumeur de coup d'État au Congo, mais tout est parti d'une chaîne Telegram russe publique. Donc, et on voit comment, après, ça a traversé la frontière avec Twitter, et même après, un peu plus réel, alors que sur place, il ne se passait rien du tout.
Le monde est confronté en permanence à une cinquantaine de conflits majeurs, mais enfin, il y en a deux qui dominent l'actualité de façon tragique. L'Ukraine et puis la guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce que pour le dernier, Israël-Hamas, vous avez eu des signes avant-coureurs que quelque chose se préparait?
Alors, dans ma cellule open source investigation, non, on n'a pas bossé
parce que vous n'aviez pas de clients ou de demandes particulières là-dessus.
Non, c'est ça. Après, je sais que on a un département qui s'appelle, une cellule qui s'appelle l'Observatoire des pays arabes au sein du groupe, qui effectue des notes d'analyse sur le monde arabe et qui, eux, plusieurs mois avant ce qui se passe là, avaient plus ou moins tiré la sonnette d'alarme sur la possibilité, la probabilité qu'un tel événement se passe.
Notamment dans le cadre du conflit ukrainien, vous aviez repéré des choses, des signes avant-coureurs dans le...
J'ai suivi pas mal de confrères, si je peux les appeler comme ça, qui effectivement avaient, via des techniques d'osine, vu des mouvements de troupes en fait, russes, notamment via la Biélorussie, etc., via en fait, de l'imagerie satellite, et un suivi des réseaux sociaux. Typiquement, tu vois, t'as quelqu'un qui publie une vidéo sur Twitter, et derrière, en fait, cette personne-là qui se filme, tu as un train en fait, qui déplace des chars. Les personnes en question ont identifié les chars, ont identifié le sens de marche du train pour en fait rendre compte qu'après, avec les images satellites, bah, les chars se déplaçaient d'un point A à un point B, le point B étant le plus proche de l'Ukraine. Donc en fait, et je sais qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là et qu'ils ont remonté l'information et qu'ils n'ont pas forcément été pris au sérieux à l'époque. Mais oui, il y a des techniques d'osint typiquement dans ce cas-là qui peuvent permettre de prévenir.
C'est-à-dire que dans l'osint moderne aujourd'hui, il y a une dimension visuelle.
Complètement. Bah, tu le vois avec tous les réseaux sociaux et qui sont de plus en plus visuels, Instagram, TikTok, Snapchat, c'est un nid de vidéos et de photos un peu random. Et aujourd'hui, tu peux même avoir accès à des caméras, tu vois, les caméras routières, les caméras météo, par exemple, tu peux l'avoir ça en Israël et sur la bande de Gaza aujourd'hui. Grâce aux stations météorologiques, tu peux avoir accès à de l'image en live, en fait, où tu peux avoir quelques secondes de décalage. Mais effectivement, il y a une composante visuelle qui est vraiment très importante aujourd'hui.
Est-ce que l'essentiel de la source, ce n'est pas les recherches sur les individus, c'est-à-dire le profil des personnes, soit qu'on veut surveiller parce qu'on leur prête des intentions malveillantes, soit parce qu'elles sont au centre d'enquêtes de justice qui sont ouvertes. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel de votre activité?
Alors oui, et c'est, je peux rebondir un peu là-dessus d'un point de vue assez sympathique. C'est que, effectivement, tu vois, quand nous, on fait aussi beaucoup de lutte anti-piratage au sein du cabinet, et pour ça, on diligente des enquêtes. Il y a des individus qui sont responsables, c'est prouvé. Là, on est en ce qu'on appelle en litigation support. Il faut aider les avocats de nos clients à pouvoir délivrer notamment tout ce qui est convocation en justice, etc., aux suspects recherchés. Donc là, tu vas enquêter sur une personne, effectivement, tu vas essayer notamment de la retrouver parce qu'elles ont souvent fui à l'international, etc. Donc là, tu as toute une un suivi qui se met en ligne et souvent, ces personnes-là n'étant pas bêtes, vont bloquer un maximum de leurs réseaux sociaux, ne vont quasiment rien poster.
Mais alors, comment on les repère, alors ?
L'entourage.
L'entourage.
L'entourage, complètement.
C'est-à-dire qu'on veut faire une espèce de grille, analyser les convergences vers ces personnes,
Mais
c'est ça ?
En fait, nous, on a résolu pas mal d'enquêtes à cause ou grâce de l'entourage, le premier cercle en général, parce qu'un individu recherché peut s'astreindre à ne pas publier sur les réseaux sociaux, à avoir vraiment une vie numérique quasi inexistante, mais sa femme, ses fils, sa fille, sa mère, etc., eux ne peuvent pas s'astreindre à la même rigueur. Et donc c'est comme ça que nous, on a été capable de retrouver des individus recherchés depuis plusieurs années. Parce que la femme, sur Instagram, en fait, a commencé à poster des vidéos de chez elle au fin fond de l'Asie. Une vidéo, deux vidéos, d'accord, des posts. Après, elle identifie un lieu. Donc... Et en fait, j'ai mes équipes qui bossent là-dessus. Qui ont... Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément dans le Zint. On a le côté, ah oui, j'ai géolocalisé une photo, c'est génial. Mais pour trouver la photo à géolocaliser, elles ont analysé 500 autres avant.
Bien sûr.
Ensuite, à nos clients de leur donner une adresse. Et là, après, il y a la justice qui se met en branle pour vérifier.
C'était dans le cadre de quel type d'affaires, quel type de fraude ?
Lutte anti-piratage, principalement. Tout ce qui est contrefaçon.
Contrefaçon,
copyright infringement, ouais. etc.
D'accord.
En fait, tout ce qui est la première partie d'enquête, qui est souvent externalisée, ils font appel à des prestataires comme nous pour essayer de faire avancer les choses un maximum et pour avoir un dossier avant que la justice se mette en branle, qui est déjà béton.
Quel est l'ordre de grandeur de temps ? Alors, tu vas me dire, ça doit varier du simple au décuple en fonction des cas. Vous êtes saisi par un cabinet d'avocats dans le cadre d'une affaire de piratage de contrefaçon. Et puis, le fait que vous finissez par identifier la personne. Donne-nous quelques exemples qui te viennent en tête.
Alors, comme tu l'as dit, ça peut varier du simple au décuple.
Oui, bien sûr.
Mais tu peux, honnêtement, moi, je dirais que quand tu as vraiment ton go ferme et définitif, oui, tu as le nom de la personne, il faut que tu y ailles. En général, en 2 semaines, 1 mois,
ah oui,
tu es normalement censé... Après, nous, on bosse vite parce qu'on bosse en ce qu'on appelle en full time, c'est-à-dire que quand on a un client, on se met à fond pour lui, sur son, ouais, cas, etc. Après, il y a des dossiers qui sont en souffrance depuis plusieurs mois, mais parce que tu te retrouves à enquêter sur des individus responsables d'actes illégaux, mais dans des pays où c'est pas la France. Tu peux pas utiliser Street View, les adresses, les chiffres, ça correspond pas, ouais, du tout. Ouais, immeuble peut avoir 6 adresses différentes, les boîtes postales, il y a pas les noms.
Ouais.
Donc c'est très compliqué, en fait, de collecter des renseignements.
Est-ce que la transparence des individus est de plus en plus forte, ou bien au contraire, les gens se protègent davantage et rendent votre tâche de plus en plus difficile?
Alors là, je te dirais qu'il y a différents types de profils.
Ouais.
Tu vas avoir des individus où très rapidement, tu vas te rendre compte qu'elles cherchent à masquer leur activité sur Internet.
Okay.
Facebook profil, enfin, compte Facebook privé, compte Instagram privé, différents pseudos. Donc, tu vois ça. Après, il y a donc les individus et je dirais il y a les plateformes. Tu vois que Facebook, au fil des années, par exemple, a rendu difficile la recherche sur le réseau, en fait.
Oui.
C'est plus difficile qu'avant. Avant, typiquement, il y a 2-3 ans, tu pouvais afficher en 2-3 clics tous les amis communs entre 2 personnes.
Ah oui.
Toutes les photos communes entre 2 personnes, où elles étaient identifiées elles-mêmes. Les
le graphe social, ce qu'on appelle.
Nous, on a des outils internes qui nous permettent de collecter des informations sur différents réseaux sociaux, oui.
Est-ce que vous avez tendance à repérer, je dirais, en creux des activités suspicieuses par le fait que la personne est anormalement peu présente sur les réseaux?
En fait, tu le vois vite quand il y a vraiment une volonté de nuire, parce que, okay, la personne, effectivement, va agir sous pseudo. Le compte a été créé la veille ou l'avant-veille.
Ouais, d'accord.
Tu vois, et c'est là où on en revient aux questions d'avant, où tu me demandais quel profil, et je te disais qu'il y avait des profils techniques et non techniques. On avait fait face, il y a 1 ou 2 ans, à une action en diffamation dénigrement par un compte LinkedIn qui agissait sous pseudo, qui était clairement responsable d'une action en dénigrement, diffamation, insulte, etc. Et là, tu fais face clairement à une volonté de nuire. Il n'y a que ce compte qui existe là, les mots-clés, enfin, tu reprends les termes, tu fais une analyse lexicale, tu vois ça nulle part. Là, il y a clairement une volonté de nuire. Ah, et c'est là où on a réussi à découvrir qui était l'individu responsable de cette action en diffamation dénigrement via, en fait, une analyse technique basée sur son pseudo, le mail qui était connecté au LinkedIn. Tu peux avoir des bases en usine qui vont être des bases en enquête que tout enquêteur doit avoir. Et donc, en fait, basé sur l'analyse lexicale, on s'est dit, il utilise beaucoup ça. Il se fait appeler ci, ça. Donc, déjà, on arrive à voir que c'est un individu masculin. Et là, en fait, on a tout simplement tenté de récupérer d'utiliser son pseudo pour voir s'il y avait des mails qui pouvaient correspondre. On en a trouvé un. On a essayé de plugger ce mail-là sur le LinkedIn. LinkedIn nous a dit, ce mail-là est déjà pris. Donc, la probabilité que ce soit,
d'accord,
le sien, c'était quand même assez important. Et après, en pivotant techniquement, on a réussi à découvrir l'identité, le nom, prénom de la personne qui avait enregistré le mail qui était vraisemblablement lié au compte LinkedIn.
Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui chez vos clients de choses qui sont demandées et qui n'étaient pas demandées il y a 2-3 ans, 5 ans?
Je dirais que du fait de la force de déstabilisation que peuvent avoir les réseaux sociaux, Tu vois, du jour au lendemain, tu peux avoir un gros sujet qui part. On l'a vu, hein, ça peut être parce qu'il y a eu un problème de RH, ça peut être parce que en fait vous êtes en train de construire une usine au fin fond de l'Afrique et que bah ça va pas, mais du coup ça peut exploser rapidement et donc les clients ont de plus en plus tendance à demander un type de veille assez précis sur justement un peu qu'est-ce que je risque, parce que aujourd'hui le panorama des risques auxquels ils font face a grandi,
c'est ça ma question,
du fait notamment des réseaux sociaux. Ils vont chercher à comprendre leurs opposants entre guillemets, qui pourrait vraiment leur en vouloir. Est-ce qu'ils ont en cours par exemple des projets qui pourraient être susceptibles de faire face à un activisme, que ce soit local, international ou tout simplement national? Tu le vois, hein, quasiment tous les mois, il y a une action militante qui est menée contre un groupe, contre un projet, etc., que ce soit en France, mais aussi partout dans le monde.
Et donc, elles vont vous demander d'anticiper un petit peu.
Bah, d'anticiper, mais surtout, en fait, déjà d'être en courant en amont, non pas dans l'anticipation pour annihiler l'action qui va les cibler, mais plutôt pour la comprendre.
Pour la comprendre.
En fait, on moniteur notamment tout ce qui est réseaux sociaux, tu vois, ça peut être les classiques, mais aussi les télégrammes, etc., pour voir un peu qu'est-ce qui va se dire au sujet d'une entreprise, d'un projet en question, et parce que ça va leur permettre, eux, de voir un peu à qui, en fait, ils peuvent avoir affaire, et pour essayer de dialoguer avec eux, tout simplement, derrière.
Quelle est ton évaluation du niveau de Zint dans les médias? Honnêtement, je suis toujours surpris du fait que, dans chaque grande rédaction, il n'y ait pas une équipe à peu près identique à celle que vous avez chez Forward. Pour moi, ce serait un investissement absolument indispensable.
Je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense que tu as des rédactions, notamment Le Monde, Check News, Des Décodeurs, qui ont ce type de cellules, ou en tout cas ce type d'expertise. Aujourd'hui, on est plus dans la vérification, en fait, a posteriori.
Ouais, ce qui est bien, mais bon, c'est pas...
Et du fait, en fait, du temps très court dans lequel est l'actualité aujourd'hui.
Ouais.
Enfin, tu vois, le coup d'État au... La rumeur de coup d'État au Congo, elle a duré quelques heures à peine.
Ouais.
Donc, tu pouvais faire de la vérification, mais c'était déjà retombé. Donc effectivement, en fait, il y a un besoin du fait de la portée que peut avoir un article, un tweet, etc. aujourd'hui, de fact-checker, je dirais, l'information, mais le plus en amont possible. Mais ça nécessite des moyens, des ressources humaines et financières.
Ça nécessite un investissement en temps, parce que j'imagine que si on lançait ton équipe sur une investigation à caractère financier, business, ça se fait pas en trois jours quand même. Il faut travailler vraiment le sujet, quoi.
C'est ça.
Il faut remonter des filières, il faut établir des organigrammes, il faut établir des graphes sociaux, il faut établir des profils de personnes.
Avant de trouver la pépite, tu vas avoir passé 2, 3, 4 jours à analyser des centaines de données, que ce soit des images, des vidéos, des publications. Enfin, typiquement, tu fais face à une masse d'informations, il faut que tu t'arrêtes, que tu te poses, que tu prennes un peu de temps, que tu mettes en place des hypothèses. Il y a une vraie rigueur qui est nécessaire pour faire ce type de travail-là. Et c'est, à mon avis, à mon sens, une bonne enquête n'est menée que si elle est menée à plusieurs. Parce qu'on a tous nos propres biais, on peut très bien être persuadé à 100% d'avoir résolu l'enquête, d'avoir trouvé le coupable, etc. Or, on fait fausse route parce qu'on a été biaisé à un moment, tout simplement, idéologiquement, ou parce que j'ai certaines convictions, pas d'autres. Donc, ça nécessite, comme tu disais, du temps, mais des ressources humaines également. Tu peux pas être tout seul, mener ton équipe, mener ton enquête de front, être sûr que tu vas arriver à la bonne solution. Il faut toujours challenger ses hypothèses, il faut toujours challenger ses résultats et ses conclusions. Typiquement, dans mon équipe, j'ai des gens qui vont être meilleurs que moi en GeoIn, par exemple.
L'analyse de contenu visuel,
et notamment la géolocalisation de photos, etc. Et c'est ce travail collaboratif-là qui permet, en fait, à la fin, d'obtenir des vrais renseignements, d'obtenir une info.
Comment le Zint a évolué au cours des dernières années sur un plan technique? Et après, la question subséquente, c'est que les gens qui défilent dans ce studio, on a toujours des discussions sur l'intelligence artificielle. Et je voulais savoir quelle était ta vision là-dessus.
Je dirais que du fait de l'essor des réseaux sociaux, c'est autant de nouveaux espaces à investiguer.
Bien sûr.
Donc, du coup, techniquement, j'ai envie de dire que aujourd'hui tout profil OSINT doit quand même avoir une certaine brique technique pour être capable d'aller glaner de l'information. Ouais. T'es pas aux États-Unis où ils ont une base de données de toutes les plaques d'immatriculation des États, mais nous, tu peux quand même aujourd'hui avoir accès à certaines bases que t'avais pas l'année dernière ni l'année d'avant.
D'accord.
Donc aujourd'hui, la base open source qui est accessible à n'importe quel enquêteur est de plus en plus importante. Il y a une masse d'informations typiquement les offshore leaks. Aujourd'hui, les journalistes qui font ce type d'enquête les mettent ensuite en ligne, donc ça crée une nouvelle base de données qui est accessible pour toi ou moi demain qui allons faire une enquête sur une autre société. On va la trouver peut-être dans cette base de données-là. C'est une nouvelle source qui vient d'être créée, qui n'existait pas il y a 5 ans.
Quid de la puissance de l'intelligence artificielle?
Moi, je pense que l'intelligence artificielle, donc dans tout ce qui est collecte, tu vois, notamment les petits tricks techniques dont on parlait, etc., pour le moment, j'ai du mal à percevoir comment est-ce qu'elle aura un intérêt. Par contre, dans tout ce qui est analyse, et on en revient à ta question de tout à l'heure, quand tu fais face à des dizaines de milliers de tweets et que tu cherches le ou les tweets qui ont vraiment diffusé cette fausse information, tu peux pas, toi, lire 70 000 tweets d'un coup et te sortir les 4-5 patterns clés.
Bien sûr.
L'intelligence artificielle, demain, tu vas pouvoir lui donner tout un tas de documents, des fichiers Excel, etc., en lui posant une question très simple. Identifie-moi les patterns avec les auteurs, affiche-moi les dates de publication, etc. Ça, elle va être capable de le faire.
Ouais.
Elle va être capable de le faire en 10-15 minutes, là où toi, ça t'aurait potentiellement pris 10-15 jours.
Très bien, bah, tu t'ennuies pas, t'as quand même un job extraordinaire.
Non, ça va, je m'ennuie pas, j'ai un job extraordinaire avec une équipe extraordinaire aussi.
Très bien, merci beaucoup Alexis.
Merci
Pinot.
À toi,
merci
Frédéric.
Bien. Voilà pour cette plongée dans le monde discret de l'OSINT. Il faut savoir que c'est un secteur qui recrute des techniciens comme des spécialistes de l'économie ou de la géopolitique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes précédents sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.